Yo, what up? Merci d'avoir tuné in pour la vidéo. Une petite minute d'attente, puis on arrive. Patience. Secondes puis on arrive les chums. Ok, let's go!
Yo, what's up les chums? Max Carabine, votre fidèle animateur, chroniqueur, podcasteur préféré. Évidemment, si on est là, réunis aujourd'hui, en ce dimanche, c'est pour parler de l'UFC 307. Grosse carte qu'il y a eu hier, je donne 7.9 Yeti sur 10 à peu près à la carte. Mais on va en jaser dans quelques instants parce que non seulement vous avez l'animateur, podcasteur, kickboxeur, amateur numéro 1, sur l'échelle québécoise, mais aujourd'hui, on reçoit le kickboxeur de l'heure, et j'ai nommé Samuel Bunch. What it do, Sammy? Ça va, man?
Ça va, toi?
Numéro un, man. Pour les gens qui le savent pas, Sammy t'a réalisé un énorme KO vendredi dernier, en direct de New York City. Mm-hmm. Puis, man, ça a fait le tour de la planète, là, littéralement. Je pense que c'est le KO de la fin de semaine dans le monde des sports de combat, là, littéralement. Là. Moi, j'ai vu ça rouler sur Twitter, le gros, puis genre...
Ouais?
Ouais, c'était insane, bro. On va en parler, là, mais comme tu gagnes le tournoi à balistique au début de l'année, puis ça fait en sorte que tu t'es mérité ta place pour le combat que tu as fait vendredi à New York au Madison Square Garden.
Exactement.
Entre-temps, tu es allé gagner une autre ceinture à Québec chez Fighter. Mais là, parle-moi de ça, le gros. Hier, vendredi, tu étais au Madison Square Garden, tu te bats. Chris, au Madison Square Garden, man. Tu knock un gars fret en dedans d'une minute. Si vous n'avez pas vu le highlight, là, allez follow Sam sur Instagram à Fireboots. Comme je l'ai dit, là, le clip est devenu viral, Sam. Raconte-moi comment il se passe là, ces trois dernières journées-là dans ta vie, man.
Ben écoute, le combat s'est passé super vite. C'est sûr que j'ai même pas eu le temps de suer à peine. Tout a été plus difficile que le combat. Mon warm-up a été plus difficile. Ma pesée a été difficile. Mais le combat, c'est la chose qui a été le plus facile. Puis tant mieux quand ça se passe de même. Le plus vite que tu peux finir un combat, le mieux c'est. Mais tu sais, le gars, j'ai quand même fait très mal. Puis oui, je suis content d'avoir knocké le gars en dedans d'une minute. Mais en même temps, je prends la peine quand même de le saluer d'avoir accepté le challenge parce que lui, dans le fond, c'était pas mon fighter principal, dans le fond. Okay. Mon fighter, il a call out. Puis, c'est pour ça qu'on a remplacé mon fighter par lui. Lui, il a accepté le combat à la dernière minute. Fait qu'il est quand même courageux d'avoir pris le combat late comme ça. Puis, j'espère juste que le gars, il va être chill aussi. J'ai quand même knocké brutalement. Là, fait que, je suis content pour avoir fini ça de même, mais en même temps, tu sais, le gars, c'est un athlète comme moi aussi.
100%.
T'sais, no bad intention, tu comprends? Le sport, c'est un sport pareil, c'est beau, c'est le fun. C'est quand même de la violence, mais comme, you know, respectfully, à la fin de la journée, we do the same thing, you know? Fait qu'est-ce qui est beau dans ce sport-là, c'est que malgré qu'on est capable de s'entretuer pendant, avant et après, on est capable de se respecter, puis de, you know? C'est quand même quelque chose de fort, là. Un athlète, là, quand tu t'entraînes pour un fighter, là, c'est quelque chose de très intime. Là. Tout le long de ton camp d'entraînement, tu penses à une personne. Le matin, tu te réveilles, tu penses à ton fighter. Le soir, quand tu te couches, tu penses à ton fighter. Mm-hmm. Dans le gym, les heures que tu fais, tu penses à ton fighter. Fait que, veux pas, il y a quand même quelque chose de fort qui se crée entre toi et ton opponent. C'est comme du respect, c'est juste du respect.
Ouais, il y a personne qui vous ressemble autant que vos adversaires, tu sais, vous passez
exactement, en fait,
vous passez par les Tout
beaucoup de
le
monde, ils
même
vont être
chemin.
morts. Comment ça, les gars, ils sont là en train de s'arracher la face, en train de suer, puis tout. Puis à la fin du combat, ils sont là en train de se donner des câlins, puis tout. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez vivre pour comprendre. C'est sûr que quand tu es quelqu'un qui regarde deux gars s'entretuer, tu es comme, ben non, ces gars-là, c'est des malades. Ils peuvent pas être chums après, tu sais. Mais ça, c'est from the outside, how it looks. Mais en dedans, c'est quelque chose qui quand même beaucoup de respect, là.
100%, man. Oui, le KO était absolument brutal. Puis
Ouais.
effectivement, on souhaite tout le meilleur à ton adversaire. Puis Charlotte à lui, man, qui a pris le combat la dernière minute. Comme tu dis, qui a sauvé un petit peu aussi ta soirée, entre guillemets, là, parce
Ouais.
que. Raconte-moi, man, c'était comment aller à New York pour te battre? C'était-tu un combat? C'était-tu comme ton premier combat professionnel ou c'était encore du amateur?
Non, c'était pas mon premier combat professionnel, mais tu sais, je suis quand même, je compétitionne encore dans les semi-pro, sauf que tu sais, c'est ma dernière chance. Si je fais mon prochain combat pro, je pourrai plus comme
Ouais.
redescendre vraiment là. Va falloir juste que je reste chez les pros. J'ai
Fait que ça,
fait
c'était un
quelques,
peu comme du semi-pro, là, cette fois-là.
ouais, mais j'ai
OK.
fait quelques combats pro, mais tu sais. C'est mon dernier avant que je puisse rester juste là,
Ouais.
sinon je pourrai plus redescendre, tu comprends? Je
100%.
pense que c'est comme trois combats avant de soit rester en haut ou chez les amateurs.
Nous donnons la belt que t'as, là, Sam, c'est la belt ISKA, ISKA.
Non, c'est pas SKS, c'est une belt de l'organisation,
T'as
Combat.
gagné ça vendredi avec ton call, là.
Ouais, exactement.
Qui est
Puis
fraîche.
dans le fond, moi, j'arrive la veille. Complètement déshydraté. J'arrive la veille, puis waouh! C'est là, à travers cette belle victoire-là, se cachent des gros sacrifices. Tout ce qui a été plus tough, c'est la déshydratation, la pesée. C'est atroce. Qu'est-ce que un fighter peut vivre durant une weight cut? C'est vraiment
Ah
difficile.
ouais. Toi, t'as fait le. Dans le fond, tu t'es battu, ton poids c'était 155 livres.
Ouais, c'est 155
Puis,
livres.
disons, le soir du combat, te souviens-tu, tu pesais combien?
Ouais, la veille, j'étais 155 à la pesée flash. Puis au combat, j'étais minimum 165.
Ok, fait que t'as repris un bon 10 livres, là.
Un bon 10 livres minimum. Ça, c'est. Je me suis pesé le lendemain matin à 165. Fait que j'ai quand même mangé après,
Ouais.
avant de monter sur le ring. Fait que j'étais peut-être 67, 167.
Puis généralement, t'es quoi? T'es genre plus comme un. Dans la vie de tous les jours, t'es genre 170, 175 à peu près?
Ben, idéalement 170. Et si
OK.
je me laisse aller un peu plus, je peux reach le 175.
Ouais.
Mais pour ce combat-là, je suis parti de 173 à 155 en 10 jours.
OK. Yo, man, pour vrai, encore une fois, Sam, félicitations, man. Allez voir le call, là, vraiment, si vous l'avez pas vu. Fire Boots. Sur Instagram. Sinon, si vous n'avez pas Instagram, écrivez-moi sur Facebook, puis je vais vous l'envoyer. Mais là, gros, il faut que tu nous parles de nous un peu, de toi un peu, Sam. J'ai cru comprendre que tu venais de Montréal-Nord. Tu es évidemment d'origine haïtienne. Tu es un fier haïtien. Raconte-moi, t'es-tu né au Québec? Comment ça s'est passé, là, ton chemin,
Ah,
depuis?
moi, je suis né au Québec. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 10 ans. J'ai toujours été un fan d'arts martiaux. T'sais, dans le temps, il y avait beaucoup de films d'arts martiaux, de karaté, de kung-fu. T'sais, maintenant, il n'y en a plus vraiment des films de même, là. Mais grâce à ces films de fantasy, c'est ça qui a fait rêver de quoi, comme, qui m'a toujours fait rêver. Puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec les arts martiaux. Puis depuis jour 1, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, j'ai su tout de suite c'est ma passion. Puis j'ai su tout de suite où est-ce que je m'alignais par rapport à ça. Tu sais, j'ai commencé le karaté avec beaucoup de personnes qui faisaient ça comme passe-temps, qui jouaient au hockey en même temps, ou qui jouaient au soccer, puis qui venaient une fois de temps en temps au karaté. Mais moi, je le faisais vraiment à temps plein. C'était vraiment ma passion. Puis entre-temps, j'ai commencé le kickboxing. J'ai commencé à grappler un peu, j'ai commencé à toucher un peu plus de plein d'affaires, t'sais, pour la culture générale des arts martiaux, j'ai été un peu plus varié. Puis à l'âge de 16 ans, je suis devenu ceinture noire. Je faisais des compétitions, j'en fais à ce jour. C'est ça. Je suis devenu ceinture noire à 16 ans. J'étais assistant professeur dans les cours. Puis c'est pas mal ça.
Tu représentes quel gym, toi, Sam, en ce moment?
Je représente Karaté Plus, Montreal Striking.
Situé.
Situé à Montréal-Nord sur Léger.
Let's go, man.
Ouais. Puis aussi, je m'entraîne aussi au Pound for Pound aussi. C'est un de mes gyms aussi.
OK.
Ouais, c'est là que je boxe aussi. C'est pour ça que t'sais, j'ai des belles
Ça
jambes. Ça explique un peu d'où ce que ça vient.
100%, mon vieux, man. J'ai vu tout le heat là, sur tout le support là, de la communauté sur Instagram, là, le post qu'on a sharé. Puis j'étais content pour toi, man. C'est hot, le gros, à voir ça. Puis depuis ce call-là, y a-tu quelque chose qui t'a comme. Qui t'a marqué, là, comme je t'ai dit en début d'entrevue, là, moi j'ai vu ça rouler sur Twitter. Puis je sais pas si t'as Twitter, toi, Sam.
Non, pas vraiment, pas vraiment.
Mais il y a un gars, dans le fond, qui s'appelle Caposa sur Twitter, puis les vrais vont le savoir, là. Puis ça, c'est comme l'encyclopédie des sports de combat sur Twitter. Il va poster n'importe quoi de genre, t'sais, de l'UFC à genre le combat obscur de kickboxing au Japon. Puis toi, t'as comme ton clip, il était là, puis c'était genre Sammy Bunch, man, puis genre le gros KO. Puis là, je suis
Ah
viré
ouais.
fou, man. Oh ouais, je t'enverrai les
Tu
trucs si tu
m'enverras
veux
ça, ouais. Je
après.
suis curieux, curieux de voir ça.
Puis j'ai vu aussi sur Instagram qu'il y a CTE Society qui. Je sais pas si tu es familier avec le
Non,
Instagram CTE
pas vraiment,
Society,
mais.
mais eux, c'est hilarant, le gros, là, parce qu'ils share tous les highlights de gros KO énormes, là. Puis tu sais, c'est lui qui a écrit sur le post, il a commenté Early Stoppage, mais dans le fond, c'est sa gimmick parce qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui se fait complètement allumer frette, il va dire que c'est un early stoppage puis que le ref il a arrêté ça beaucoup trop tôt. Fait que moi, quand je l'ai vu, lui, commenter sur la publication puis partager ton KO, man, j'étais ailleurs, le gros, man. Fait que toi, y a-tu quelqu'un qui est venu t'écrire ou whatever, une interaction que t'as vécue depuis ton KO, que t'étais genre, OK, kind of made it là, dans ce moment-là, là, tu sais?
Je sais pas, j'étais encore. C'est maintenant que je commence à reprendre.
Ouais,
Les...
tu descends de ton nuage un peu, là.
Ouais, exactement. Tu sais. Je suis arrivé hier soir, j'étais fatigué, j'ai dormi, puis c'est maintenant que je suis enfin de retour à
OK.
la réalité. Mais sinon, après le combat, c'était vraiment quand que je marchais dans le Madison, dans le stadium, c'est tout le monde qui tirait, criait. Les photos, ouais, j'ai vraiment ressenti que j'avais impacté de quoi, de big à travers comme une simple minute, tu
Ouais, c'est ça, exact. Mais
sais.
comme tu dis, c'est une minute, mais c'est tellement de travail puis de sacrifice avant ça que c'est tellement mérité. Même c'est pas de la chance là, qu'est-ce qui est
Non,
arrivé.
non, non, aucunement, tu sais. Que j'en entends un qui me dise que c'est un lucky shot.
Ouais.
C'est
si on veut le KO, ils vont pas te dire ça, mon vieux, man, parce que t'as ton crochet de la gauche, là, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi puissant que ça, man.
ouais. C'est du pur timing, précision, puissance. C'est
Pour un gars de karaté en plus, tu sais, vous êtes reconnu plus pour vos coups de pied, man. Fait que le fait que t'aies un esti power strike comme ça, man, c'était impressionnant. C'est quoi la suite pour toi, bro? Tu prends-tu ça relax, mettons, jusqu'au fight, puis tu vas te battre en 2025? Tu veux-tu enchaîner de quoi rapido presto?
Non, mais tu sais, dans le fond, avant de monter au Madison, il y a peut-être. Ben, il n'y a pas trop longtemps de ça, avant ce combat-là, je me suis battu, là, comme tu l'as mentionné. Tu as dit que j'avais été me battre à Québec pour une
Ouais.
ceinture. Mais justement, eux, les autres, ils organisent un autre événement. Puis
Yep.
j'ai été proposé soit de justement rematch le gars pour défendre la ceinture,
Ah ouais.
ou sinon d'aller chercher une ceinture chez les plus légers, genre.
Pouf.
Fait que,
En
ouais.
45, genre.
Non, tu sais, dans le fond, la ceinture que j'ai gagnée, c'était
Ouais.
à 172. Dans le fond,
Ouais,
j'ai catchweight
OK.
avec lui. Puis, c'est ça, on me demande de la défendre, mais sinon, j'irais plus comme à, mettons, 163, 164,
Ouais.
je pense.
Oh, it makes sense.
Ouais, pour
OK.
moi, ça serait plus l'idéal d'aller chercher une autre ceinture que de juste défendre. Ça peut tarder un peu, genre.
Ouais.
S'il veut un rematch, ça me fait plaisir, mais je vais lui ordonner ça. Mais sinon, pour l'autre ceinture, je vais aller la chercher.
Ça serait genre au mois de décembre, si je me trompe pas,
Ouais,
la prochaine carte.
exactement, ouais, exactement, décembre.
All right, man. Sammy, merci beaucoup d'avoir été là, man. Samuel Bunch. Fierté de Montréal-Nord, Fireboots sur Instagram, allez le suivre. Puis gros, profite de ça, man. Profite des bons vibes, man. Mange bien pendant que tu peux, mon vieux, man. Puis enjoy les fruits de ton travail, man.
Yes sir. Merci, Max, man. Thanks de m'avoir reçu aujourd'hui.
Plaisir, broski, man. Puis on se voit très bientôt, mon boy, j'ai aucun doute.
Yes sir, peace.
All right, peace. Et voilà, les chums, c'était Samuel Bunch, kickboxer québécois. Montréalais même, qui est allé exploser un dude. Là. Il est cool, Samy. Là, il est comme, certes, je l'ai pété, mais j'espère qu'il est correct. Puis effectivement, c'était un scary KO. Scary KO, là, les chums. Là, j'ai le clip, là, mais je ne vais pas vraiment vous le partager parce que je pense qu'il va peut-être avoir des copyrights ou quelque chose du genre. Là, mais c'est sur Instagram, là, à Fireboots. Sinon, écrivez-moi en DM ou sur Facebook, là, puis je vais vous le partager, là, un KO brutal. Quand je dis que ça a fait le tour des arts martiaux, du monde des arts martiaux mix, là, dans le monde, là, littéralement, là, le monde des arts martiaux mix dans le monde. Tu sais, imagine, c'est comme deux mondes. Complètement fou. C'est KO violent, les gars, man. Puis, gros gars, man, Samy Bunch, man, Montréalais, d'origine haïtienne, super posé. C'est ça, il a gagné un tournoi à Balistique, qui est une promotion de kickboxing amateur ici. À Montréal. Ben, en tout cas, c'était un peu ambigu quand j'ai demandé s'il était amateur ou pro. Là. Semble être comme un peu entre les deux. Semi-pro. Puis là, a gagné une ceinture à Québec, aussi chez Fighter. Puis là, mentionne qu'il va probablement se rebattre à Fighter à la fin de l'année, là, en décembre. Là. Je risque d'être là en plus, d'ailleurs. Fait que... Très hâte de voir ça. Mais gros KO, violent. Beaucoup de violence. Brutal. Bonjour tout le monde, dit Jesse Marasco. Saluez donc Jesse, là. Brutal, le KO de Sam. Tout comme l'UFC 307 hier. J'ai tendance à dire 297. On dirait que j'arrive pas encore à rentrer dans les 300. Mais c'est 307. Puis c'est ça, man. C'était fucking violent. Man, comme en début de show, j'ai dit, je donne 7.9 Yeti sur 10. C'est ça que j'ai dit. Yeti parce que je donnerais 7.9 Mormon sur 10, mais je ne sais pas si c'était politically correct. Fait que j'ai opté pour Yeti. Parce que, comme vous le savez, ben, le hockey est rendu à Salt Lake City, la NHL. Puis ils n'ont pas de nom. C'est Utah Hockey Club. Mais le nom qui semble être le plus de l'avant pour être adopté l'année prochaine lors de leur baptême à l'équipe de l'Utah, c'est le Yeti. Fait que la carte d'hier, l'UFC 307, 7.9 Yeti sur 10. Puis c'est évidemment majoritairement à cause du chum Alex Poatan Pereira. Quel combat violent. Brutal, encore une fois. Fou fight. Un des top 5 meilleurs fights de l'année, peut-être. Ça reste à voir, là, mais... C'était quelque chose, mais on viendra un petit peu plus tard. Là, on va faire le tour de la... On va commencer par le début de la carte, puis on va finir avec le gâteau, comme vous le savez déjà. Comment vous l'avez trouvé, vous autres, la carte hier? Vous checkez ça, les chums à Salt Lake City? Court McGee, le vétéran qui soumet Tim Means dès le premier round, après 3 minutes 20. Belle victoire pour Means. C'était deux vieux bonhommes, puis ben, Means est plus vieux que Court McGee, ça a l'air. Carlo Esparza qui se fait voler... Son combat de retraite face à Tisha Pennington maintenant. Tiny Tornado. Ouais, décision controversée comme il y en a eu beaucoup hier à Salt Lake City. Moi, j'étais comme. J'avais dit que Pennington gagnerait, fait que j'étais content. Mais elle aime bien Cookie Monster. Carla Esparza, c'est une G-man. Fait que si elle avait pu gagner, ça aurait été bien cool aussi. Mais ça n'a pas été le cas. Puis après sa retraite, la chum, l'ex-championne, quand même une grosse pionnière là, dans le monde des arts martiaux mixtes et de l'UFC. Là, Carla Esparza, première championne des 115. Grosse carrière pour Esparza. Puis là, elle s'en va dans la brume. Après ça, on a eu Ryan Spann qui a démoli OSP dès le premier round. C'était cool, man. C'était cool. On avait peur un petit peu que ça s'éternise. Là. Deux gros bonhommes comme ça qui ont tendance à être des fois divertissants, mais des fois, ils penchent sur le bord du pas trop divertissant. Puis là, c'est en altitude. T'es comme, les petits gars vont-tu gaz de fuck out? T'sais, comme, puis ça va être ultra boring. Mais non! Ryan Spann, il est sorti en forme. T'as tagué OSP avec des grosses droites. Puis finalement, réussi à... Il l'a soumis? Oui, il l'a soumis, c'est ça. Il a réussi à soumettre OSP tout début du combat. Fait que c'était bien. C'est ce qui mettait terme au préliminaire précoce. J'adore la traduction libre sur le site de l'UFC, encore une fois. Là, je m'y ferai jamais. Les préliminaires précoces. Après ça, là, c'est là que le shit show utahin. Shit show, Salt Lake City a commencé. Ihor Potiera contre le kickboxer César Almeida. César Almeida qui a somehow une win sur Alex Pereira en kickboxing professionnel. Ah, puis là, je sais pas si vous avez checké le combat, là, mais l'arbitre, là, oulala, il en a arraché sur celui-là. César Almeida qui a poké le pauvre. Mais en même temps, il n'y a personne qui aime Ihor Potiera, là, l'Ukrainien. Là, fait qu'il peut bien se faire high poke le nombre de fois qu'il veut. Il n'y a personne qui va être triste pour lui. Mais c'était quand même. C'est quand même frappant, là, toutes les fautes de César Almeida. Puis l'arbitre, qui veut, il fait même pas un hard warning, là, aucun avertissement. Là, il est juste comme le gros, fais attention à tes doigts. Puis là, César, il te le poke comme s'il n'y avait pas de lendemain. À un moment donné, il te le nut shot. Ihor, là, il en a eu pour son argent dans celle-là. Puis le ref fait rien, enlève aucun point absolument. Puis même quand il y a du clinch un peu contre la cage, là, ça prend pas 5 secondes qu'il les sépare, là, comme. Ça n'avait pas de bon sens, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait dans ce combat-là. Pas un combat avec beaucoup de... beaucoup d'envergure, beaucoup d'enjeux. Enjeu, c'est le mot que je cherchais. Fait que Almeida qui gagne par décision, c'était weird, le ref. Bizarre. Austin Hubbard perd une décision partagée contre Alexander Hernandez. Puis ce que je retiens de ce combat-là, c'est Hernandez, en conférence de presse, après le combat, il mentionne que Day of the fight, genre, il va prendre comme un café avec ses boys dans un resto à Salt Lake City. Puis il a vu quelqu'un se faire tirer dessus. Un drive-by en plus, je pense, ou peut-être pas, là, mais il y a quelqu'un qui a tiré quelqu'un devant eux autres. Là. Puis là, Hernandez, il raconte qu'il y a un de ses coachs, un de ses cornermen qui est parti à courir après le tireur. Puis Hernandez, il était comme le gros, pas le temps de te prendre pour Batman, là, j'ai un combat à soir. Là, fait que, weird. Fucking weird, les chums. Hernandez qui remporte une split decision. Après ça, on a la plus jeune combattante de l'UFC, Yasmine Lucindo, qui était 14e chez les 115, qui affrontait la vétéran là, Marina Rodriguez, numéro 6. Donc, c'est tout un bond dans les classements pour Yasmine Lucindo. Tout un test. Marina Rodriguez, là, c'est une tough. Elle a pogné des bonnes, puis beaucoup d'expérience. Puis Lucindo, elle l'a battue. Split decision. Lucindo a montré qu'elle avait. On savait que c'était une tough. Là. Elle a du chien, là. Yasmine Lucindo. Là. Elle a appris les arts martiaux mix à 14 ans pour défendre sa mère et sa sœur, je pense, de violence conjugale/slash familiale. Bref, il y a quelqu'un, un beau-père qui était violent dans sa famille avec sa mère et sa grande sœur. Puis elle, Lucindo, a dit: moi, je vais faire du MMA pour y péter à elle, à lui. Puis force est d'admettre que. C'était une bonne décision de sa part parce qu'elle est rendue numéro 6 chez les 115 à bas Marina Rodriguez. Puis c'était un correct combat. Tu sais, il y a eu un petit peu de grappling, il y a eu du sang. C'était bien correct. Après ça, contre toute attente, la représentation de la nuit sur les préliminaires, donc le featured bout of the evening. Le dernier combat sur la carte principale, Joaquin Buckley, numéro 11, chez les welterweight 170, affrontait le boy, le chum, Stephen Wonderboy Thompson. Puis ça a bien commencé pour Wonderboy. Là, on savait là, que Buckley allait arriver là puis allait vouloir l'amener au sol. Puis il a réussi une couple de fois, mais Wonderboy, à chaque fois, il réussissait à se relever, faire son petit karaté là, sur le back foot là, en contre-attaque. Là. Il a réussi à taguer Buckley une couple de fois. Buckley, pas payé menton quand même, le Wonderboy qui a landé 2-3 head kicks là, pic, 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 sur le bord du crâne de Joaquin Buckley. Puis Buckley, man, qui est resté de glace. Puis c'est ça, Wonderboy gagnait pas mal cette fight-là, là, je dirais, parce que Buckley réussissait à l'amener au sol, mais faisait pas grand-chose. Puis Wonderboy se relevait, puis réussissait à le taguer. Fait que c'était peut-être genre 1-1 ou 2-0 sur la carte des juges. Mais là, on arrive au troisième round. Tout va bien pour Wonderboy encore. Il fait son petit jab, ses petits kicks à distance. Mais là, il commence à être fatigué, Wonderboy. 41 ans, on est en altitude au Utah. Buckley, sacré. Mais c'est un athlète, là, ce gars-là, on va se le dire, c'est un athlète. Puis all of nowhere, il te slug Wonderboy. Puis ça, on n'a pas vu ça souvent. Je suis pas mal sûr que c'est la première fois de sa carrière que Steven Wonderboy Thompson se fait mettre KO. Buckley, on le sentait un petit peu plus agressif justement au troisième parce qu'il sentait peut-être qu'il était tiré de l'arrière sur les cartes des juges. Fait qu'il allait de quelques blitz, puis là, il soignait les gros crochets. Puis là, c'est ça, on voyait Wonderboy qui reculait puis commençait à être fatigué à un moment donné. Pac! Buckley te le tag, ben comme du monde. Gros crochet de la droite en plein milieu. Sur le pif à Wonderboy. Wonderboy tombe. KO. Buckley est allé d'un ou deux strikes au sol, là, mais l'arbitre a arrêté ça. Là, Wonderboy qui s'est relevé pas mal tout de suite. Là, fait qu'il était pas, au pays des merveilles, là, mais c'était violent. Puis c'était particulier voir Wonderboy se faire mettre KO par un Buckley plus petit, plus stocky, plus comme en mode grappler. Bang! Il te sort une drette pour éteindre les lumières de Wonderboy. Grosse victoire pour Buckley, man, franchement. Puis là, après ça, sur le mic, lui qui a tendance à l'échapper d'habitude, là, Joaquin. Call out Conor McGregor, genre, il y a 2-3 fights, là, tout le monde est genre, qu'est-ce que tu fous, bro? Ben là, il est allé d'une belle promo, man. Il dit Belal Montana, man, m'a pogné dans une couple de temps, là, mais m'a laissé Shafkat s'occuper de toi pour l'instant. Kamaru Usman, ça te tente-tu qu'on se pogne? Fait que c'est un gros call-out, man. C'est raisonnable, ça fait du sens. C'est quand même un step-up. C'est un ancien champion, Kamaru Usman. Allegedly, un des meilleurs, 170 ever. Puis même Usman qui a répondu sur Twitter, qui a dit qu'il était de la partie, lui, avec. Là. Fait que... Ben Stoke pour Buckley. Un peu tristou pour Wonderboy. Mais Wonderboy, donnez-y des strikers. Là, c'est fini de niaiser. Là. Donnez-y des vieux strikers là, à 170 là, pour qu'on ait du fun. Premier combat de la main card. Kayla Harrison contre Caitlin Vieira. Kayla Harrison, double médaillée d'or olympique. Quadruple championne PFL, genre. Avec Smoke... Holly Holm à son premier combat à l'UFC. Tout le monde se demandait comment elle allait le faire 136. Elle a refait 136 une deuxième fois. Elle affrontait la numéro 2, Caitlin Vieira, la brésilienne. Puis tu sais, tout le monde est comme, « Hey yo, elle est grosse, man, Kayla Harrison. » Genre, tu sais, musclée à côté dans la boat. Puis comment qu'elle fait 136? Puis là, t'as la main contre Caitlin Vieira, qui est certes pas aussi musclée, mais c'est une madame. C'est une madame, Caitlin Vieira. Elle est beaucoup plus grande, puis elle towerait, pour emprunter une expression à nos voisins du sud. Là, elle faisait la tour au-dessus de Kayla Harrison. Bref, Kayla Harrison, évidemment, a essayé son fameux judo. Puis quand elle l'avait là, contre la cage, là, tu voyais Vieira, puis on aurait dit que Vieira était une catégorie de poids au-dessus. Puis ça, c'est particulier avec Kayla Harrison, qui est en elle-même une montagne de muscles. Fait que Kayla Harrison, qui a fait face à beaucoup d'adversité, a réussi à prendre Vieira et l'amener au sol. À la fin du premier, pas fait de grand dommage. Deuxième, elle était un petit peu plus active, mais Vieira réussit à la taguer, réussit à la séparer du clinch, réussit à lui faire mal, là, même qu'à un moment donné, il y a une belle bosse là, qui s'est formée au-dessus de l'œil à Kayla Harrison. Puis elle n'a pas payé de coulis de sang là, qui tombait de cette bosse-là, puis Kayla Harrison qui l'a mentionné après le combat. C'était la première qui me fait saigner, ma tannante. Fait que ouais, beaucoup d'adversité là, pour Kayla Harrison, mais au final, elle était supérieure puis elle a dominé au troisième round. Mais c'était beaucoup de stall, c'était beaucoup de contrôle de grappling sans nécessairement faire beaucoup de dommages. T'sais, en termes de damage, je pense même que c'est Vieira qui en a fait un petit peu plus. Mais au terme de contrôle au sol ou contre la cage, Kayla réussit quand même à aller chercher ce combat-là sans trop de controverses, mais elle qui était favori à 9 contre 1. D'aller à la décision. On se doute, comme dans le breakdown, je l'avais dit aussi, je pense que ça valait la décision parce que Vieira est tough, puis c'est en altitude, puis tout. Fait qu'à un moment donné, tu commences à manquer d'air. Fait que c'est une victoire, certes, pour Kayla Harrison, mais pas dans l'éclat dont elle l'aurait souhaité contre Vieira, mais quand même, elle est numéro 2. Puis on a vu qu'elle est probablement la prochaine à affronter la championne, mais on y viendra. Roman Dolidze. qui a battu Kevin Holland, dans les 10 numéro 10 chez les poids moyens contre Kevin Holland numéro 15. Pauvre Kevin Holland, man. Le combat, il commence. Là, on savait striker, grappler. Puis Holland, il a de l'air en forme. Là. Il n'a pas le temps de niaiser. Il drop les hammers. Puis il sort beaucoup de striking. Touche de Lydie. De Lydie, énorme bonhomme. Réussit quand même à bien se défendre. Puis tout. Puis à un moment donné, je pense que c'est même à cause. C'est pas nécessairement un takedown. Je pense que c'est. Ou peut-être, mais il me semble que c'est Holland qui a comme trébuché, qui a lancé un strike, un coup de pied. Puis ça a fait en sorte qu'il s'est retrouvé au sol vers la fin du premier round. Puis là, De Lydie qui est on top. Puis Holland, il essaie de se relever. Les quatre fers en l'air. Puis tu vois. Ben, en fait, tu vois pas. Là, t'entends juste Kevin Holland qui rit. Puis c'était un tough, là, Kevin Holland. Fait que lui, si lui, il crie de douleur dans la cage, c'est parce qu'il est arrivé de quoi, tu sais. Puis là, t'as l'arbitre qui est comme, t'es-tu correct? Parce qu'on se souviendra, pas tellement longtemps, il me semble que c'était un des frères Tafa contre Sergei Spivak, il avait crié, parce qu'il était dans un knee bar, puis l'arbitre, sans que Tafa, il tape, il a arrêté le combat, puis la raison, c'était que ben, tu peux pas vraiment crier de douleur quand t'es dans un combat, parce que, selon les règles, ben, c'est comme si tu tapais verbalement, parce que il faut sauver à un moment donné les combattants d'eux-mêmes. Puis si tu gueules dans le cage, c'est peut-être parce qu'il faudrait arrêter le combat. Fait que là, Holland, il gueule, mais je pense que c'était Jason Herzog, le ref. Fait que là, il regarde Holland, puis il est comme « T'es-tu correct, le gros? T'es-tu correct? » Parce qu'il était à ça d'arrêter le fight. Puis là, Holland, qui est genre « Ah! » Et puis là, il continue de se défendre. Puis là, Dolly dit qu'il droppe les hammer fists, droppe les coudes. Pendant que Holland est en grosse douleur, il reste peut-être 30 secondes, mais il réussit comme à se bloquer, puis à bouger assez, puis défendre pour que l'arbitre arrête pas le combat. Mais là, le premier round fini, là, tu vois Holland qui se relève, puis là, il est mal. Puis là, tu te rends compte qu'il est mal aux côtes. Puis il s'en va dans son coin, puis son coach est comme, tu peux-tu continuer, le gros? T'es-tu sûr? Tu peux-tu continuer, mon champ? Puis là, Holland est comme, ah, j'aimerais ça, je veux pas arrêter, mais je suis pas sûr que je peux. Et puis là, ça gosse de même back and forth pendant une minute. Là, le ref, il va, puis là, finalement, le coach de Kevin Holland est comme, ah non, c'est fini. Puis, man, si vous avez déjà fait du jiu-jitsu, là, vous savez un petit peu c'est quoi cette douleur-là, puis c'est probablement beaucoup plus intense que Kevin Holland a vécu, là, mais pour avoir fait du jiu genre trois fois dans ma vie, ça m'est arrivé une fois là, de comme t'es squeezé, là, pis t'as le dos courbé, puis comme tes jambes qui rentrent, les hanches qui rentrent en dedans, fait que tes abdos sont tous squeezés, puis tes côtes, puis t'as juste une côte qui pop. Puis le croche. Ça fait mal en sacrament, man. Petite contusion aux abdos, une côte qui poke dans un abdo, juste une côte qui une fêlée. Fucking, ça suck en assis cette position-là dans un combat, on va se le dire. Puis le pauvre Kevin, mais il s'est fait pop-in rib, c'est avec Dolly D qui devait peser 300 livres dans le combat, je comprends donc, tu sais. Fait que dommage, ça allait être probablement un bon combat. Ça s'est terminé ainsi. Victoire pour Dolly D. Puis, hopefully, Kevin Holland va être correct et va pouvoir se battre la semaine prochaine. Là, après ça, déception totale. José Aldo. L'UFC, José qui revient, José Aldo, là, on va se le dire, là, un des plus grands de l'histoire, divertissant, c'est The King of Rio, violent, une légende, littéralement. Puis là, l'UFC, il revient de sa retraite, puis l'UFC, le match contre Mario Bautista. Who the fuck is Mario Bautista? Là? À moins que tu checkes l'UFC, toi, fucking semaine, comme probablement la plupart d'entre nous en ce moment, vous savez pas c'est qui Mario Bautista. Puis là, ben, il a battu José Aldo par split decision. Puis là, controversé un peu parce qu'il a vraiment fait beaucoup de contrôle contre la cage. Bautista, c'était du stall. Il y a de l'anti-combat contre José Aldo, vraiment. En termes de striking, landé, aucun doute que c'est José Aldo qui a l'avantage. De frappe efficace, de damage, littéralement. Mais en termes de contrôle, ben oui, c'est Bautista. Fait que ça vient à comment tu juges le fight. Puis split decision pour Mario Bautista. L'affaire, c'est que Bautista, à la conférence de presse, pour ceux qui avaient vu, il était comme « Ah ouais, Aldo, man, tu vas voir ton propre sang, mon Aldo, man, puis ça va être une fucking guerre, puis je vais lui montrer qu'il aurait pas dû revenir dans l'UFC. » Puis le Aldo qui est comme « Ouais, il va avoir du sang, mais ça va être le tien, Mario. » Fait que là, tout le monde est comme « Ok, Mario, il a de l'air de vouloir être... » Finalement, man, c'était un bluff. C'était un gros bluff de la part de Bautista. Il y a sûrement il établit ses. C'est un jeu, là, c'est the art of war, là, l'art de la guerre. Là. Puis ça faisait partie d'une de ses stratégies à Bautista, c'est de nous laisser penser à nous et à Aldo que Bautista il était là pour striker avec José Aldo puis montrer qu'il était un meilleur striker. Puis finalement, c'était pas ça pantoute. Batista, il a contrôlé José Aldo. Il a essayé de l'amener à terre, évidemment, José Aldo. Personne ne peut l'amener à terre. Mirab de Valejvili n'a pas réussi à l'amener à terre. Évidemment que Mario Batista n'allait pas être capable. Mais, comme Batista il a dit après le combat, parce que la foule huait, évidemment, de toute voix, il est comme, si c'est pas mon problème à moi, si le chum Aldo, il fait rien là, quand je le colle contre la cage. Fait que certes, c'est pas divertissant, mais bien que j'ai gagné cette fight-là, là, c'est pas mon problème à moi. Là. Puis c'est sûr que José Aldo, il a tendance à être passif un peu, le dos contre la cage, puis c'est qui est ça. Les juges ils ont donné le combat à Mario Bautista, puis c'est dommage, man, pour José Aldo, qui, encore une fois, méritait mieux que de se faire matcher contre Mario Bautista, puis là, il revient de sa retraite. Pourquoi, finalement, tu sais, pour perdre contre Mario Bautista? Fait que c'était bien dommage de voir ça hier, malheureusement. Ce qui nous mène au combat co-principal de la soirée entre ces deux dames, Rocky Raquel Pennington et Juliana Peña. Honnêtement, là, ça doit être un des seuls combats féminins genre de ce genre-là, de 5 rounds, que j'ai écouté du début à la fin. C'est-tu parce que mon attention était plus là que d'habitude? C'est comme il y a eu des meilleurs combats féminins cette année, probablement. Ça doit quand même être un des bons combats féminins qu'il y a eu cette année. Puis c'est ça, man. C'était pas, honnêtement, c'était correct. Genre, tu sais, comme 7.9 Yeti sur 10 sur la carte. Puis si c'est pas de Pennington Peña puis de Pereira Roundtree, c'est un 5. Là. 5.5 là, sur 10, cette carte-là. C'est de ce que je viens de parler depuis le début, là, c'était. Il n'y avait rien d'incroyable. Là. Absolument rien d'incroyable. Puis Pennington Peña, ça valait un point de plus, je pense, au classement. Puis évidemment, Pereira Roundtree, ça a probablement bumpé ça 2.5, 3 points. Mais Pennington Peña, ça a livré la marchandise, honnêtement, si vous vous demandez mon avis. Puis là, si vous me suivez sur les plateformes, ce que je vous invite à faire, le Twitter, Facebook, Instagram, Maxime Carabine, Carabine avec un K, vous le savez déjà. J'étais outré complètement parce que, encore une fois, j'ai regardé le combat du début à la fin. Puis là, j'étais comme, ces hosties-là, ils vont donner le fight à Peña. Je comprends. S'ils donnent le fight à Peña, je pète tout. Puis Chris, comme de fait, ils donnent le fight à Peña. Là, je suis dans tous mes hosties d'état. J'écris partout en caps, là, que c'est un vol, appeler la police, tu sais, comme, je me suis pris à avoir un élan de consternation suite à cette décision-là. Puis, man, là, OK. Là, parce que c'était clairement... Il y a eu 4 rounds clairs dans ce combat-là. Le 2, ça va à Peña. Le 3, ça va à Peña. Le 4, ça va à Pennington. Le 5, ça va à Pennington. Fait que tout revenait au round 1. Fait que là, moi, à la fin, je suis comme... Si gros crise de vol, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu fais ce calcul-là, puis t'es, okay, tout revient au premier round. Puis le premier round, c'était, ça faisait quand même 20 minutes qu'il était arrivé, puis il s'en était passé des affaires dans le combat. Fait que je suis comme, c'est vrai que si t'as jugé le premier pour Peña, ben t'as pas le choix d'avoir jugé le 2 puis le 3 pour Peña. Donc, elle a gagné les 3 premiers. Mais c'est que Pennington a gagné le 4, le drop sur sa face, land un head kick, prend vraiment là, le momentum, le big time au 4e. Fait que là, on a comme l'impression que c'est 2-2 en arrivant au 5e. Parce que le premier, le souvenir qu'on a, c'est que c'était serré, mais tu sais, souvent, tu as tendance peut-être à le donner au champ, puis il était définitivement rien arrivé de majeur au premier. Fait que là, le feeling qu'on a, puis là, Pennington qui connaît tout un round 4, tellement que tu peux te permettre de donner un 18 à Pennington. En kickboxing, tu droppes le gars ou la fille au 3e round, mais c'est un 18. La seconde que tu droppes quelqu'un sur son cul, 18. En MMA, c'est pas de même, ça marche. Mais c'est quand même weird que round 2, round 3, puis round 5, des bons rounds, mais il s'est pas passé de quoi de majeur, tu les juges des 19, puis le round 4, où est-ce que Pennington te fout Peña sur son cul avec une énorme droite, puis te lène un head kick qui envoie Peña valser pendant quelques instants. C'est un 19 et tout. Fait que tu vas me dire que les 4 rounds, c'est le même score, alors que t'en as un qui est clairement beaucoup plus... qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Le Pennington domine largement ce round-là, contrairement aux 3 autres. Puis c'est tous des 19. Fait que ça, c'est fucking weird. Le quatrième round devrait être un 18 pour Pennington. Ça, je vais mourir là-dessus, les Jim. Ça, c'est un 18 pur et dur. Mais non, il n'y a pas un juge qui a donné 18 ce round-là. Fait que si ce qui est le bon pointage à faire dans le quatrième round, c'est 18. Fait que là, si tu me dis que Peña gagne le 1-2-3, ben, on reviendra. Là. J'ai réécouté le 1, puis Pennington qui l'a gagné le round 1. Puis Pennington s'est fait voler ce combat-là, les chums. Mais mettons que tu me dis Peña, je donne le round 1, 2-3, 18 Pennington au 4, comme ça devrait être, puis 19 Pennington au 5, bon, un match nul. Puis là, je suis d'accord que c'est bon pour personne. Un match nul, à part pour Pennington, parce qu'elle garde sa ceinture, mais c'est juste match nul équivalerait à un rematch. Puis on veut pas voir un rematch. On a déjà eu un bon combat entre Pennington et Peña. Aucune chance que le rematch soit meilleur que ça. Là, t'sais. Mais ça aurait été un pointage acceptable. Nul. Ou victoire Pennington. Parce que, comme je le disais, j'ai réécouté le premier round le matin parce que je me suis surpris, moi, hier soir, à être outré puis à prendre le bord de Pennington puis d'être genre, c'est un vol, ça n'a pas de bon sens, pire décision que j'ai vue depuis longtemps. Puis là, comme je vous ai expliqué, le 2, c'est à Peña, le 3, c'est à Peña, le 4, c'est à Pennington, le 5, c'est à Pennington. Donc, tout repose sur le premier round. Là, je dis qu'est-ce. Je suis un professionnel, moi, les chums. Je retourne voir le premier round à matin. Pennington a gagné ce round-là, les chums. C'était serré. Peña, Landon, coupe de jab. Mais il y a eu comme 3 strikes qui ont retenu mon attention. Puis c'est Pennington. À un moment donné, Allen a un switch uppercut. À un moment donné, Allen a un switch Superman punch. À un moment donné, Allen, au début du combat, là, après une minute, là, Allen a un crochet de la gauche qui fait reculer Peña. Puis Peña a landé un bon strike, une bonne droite. À un moment donné, quand Pennington lançait un Superman punch, Peña est venu la rencontrer, mais that's it. Fait que, ben de la misère à comprendre comment tu peux donner le premier round à Peña. Sur le coup, écoute, t'en veux pas, mais réécoute le premier round, mon chum, puis tu vas être d'accord avec moi. Pennington, le premier round, c'est à Pennington, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis là, ensuite, mettons que tu le donnes à Peña. Weird, mais OK. Là, t'as le deuxième round. Peña réussit à amener Pennington au sol, mais fout absolument rien. Absolument rien. Il lève pas un coude, il lève pas un ground and pound strike. Essaye à peine des soumissions, mais Pennington se défend super bien. Fait que tu donnes ce round-là à Peña, c'est sûr, mais c'est rien. C'est fuck all, rien passé, à part le contrôle au sol. Troisième round, même chose. Puis là, il y a eu un petit peu plus d'intention là, du côté de Peña. Là, je pense qu'elle a mis Pennington un petit peu plus en danger à un moment donné avec un rear naked choke. Mais encore une fois, Pennington s'est bien défendu. C'est encore un round à Peña, mais t'es correct. Il n'y a personne qui s'est fait trop mal dans ce round-là. Puis là, t'arrives quatrième round. Pennington te drop Peña sur le cul avec une grosse droite, land un head kick, va de l'avant, fonce, met toute la pression. Là. Meilleur round du combat, 18 Pennington, ça devrait être. Cinquième round, on se dit, même, tout le monde se dit ça, le Peña, son coin, Pennington, son coin, tout le monde est d'accord que elle qui gagne le cinquième round gagne le combat. Pardon. Pennington va de l'avant, Pennington continue de striker, Peña fait absolument fuck all au cinquième. Elle fait juste reculer puis se défendre. Fait que c'est pour ça que je comprends que c'est pas le vol de l'année, mais c'est juste la façon dont le combat s'est déroulé. Tu vois Pennington qui prend clairement l'avantage, le dessus, au quatrième pour au cinquième round. Puis même Peña, là, on la connaît tous, là, cette femme-là, là, beaucoup d'expressions. Puis tout, puis tu le vois après le 5 round, là, elle est pas mal sûre qu'elle a perdu, en fait, même. Puis là, tu vois la décision, puis le split decision, puis... Elle n'est pas sûre, Peña. Puis là, split decision pour elle. Puis là, calice, ça a gagné. Puis là, étais-tu donc contente? Puis je comprends. Si elle est contente. Elle méritait d'être contente. Elle a gagné. Elle met la main sur sa ceinture. C'est bien rare le monde qui devienne champion ou championne, perdent leur ceinture, puis réussissent à rechercher leur ceinture. Adesanya l'a fait dernièrement, puis là, Peña vient de le faire. Mais sinon, c'est très, très rare. Mais elle a perdu cette fight-là. Puis, weird, je suis d'accord que Pennington aurait dû gagner, encore une fois, mais il y a des affaires qu'elle n'a pas faites. Elle a strictement boxé, ce qui a payé au quatrième pour au cinquième round, mais elle n'a pas lancé un nasty coup de pied. Elle a lancé genre 4 low kicks dans le combat, alors que tu voyais la jambe de Peña grosse de même qui attendait juste ça de se faire low kick. Fait qu'il y a un petit peu un manque de jugement, là, un manque de jugement de la part de Pennington. Puis comme si elle avait peut-être mis la pédale un petit peu plus au fond, elle serait encore championne aujourd'hui. Même si elle devrait encore l'être. On est d'accord là-dessus. Puis le coin aussi de Pennington. Il y a des cornermen meilleurs que d'autres, hein? Puis Pennington, c'est pas les meilleurs. Un peu comme le chum Benoît Saint-Denis, là. Quand t'es en train de se faire tétaniser par... tétaniser? En tout cas, quand Moïcano, il a pété à gueule, son coin, son... Vas-y, Benoît, t'es chez toi! Vas-y, Benoît! T'es chez toi! T'as une minute, assis pour centrer ton combattant, lui donner des bonnes astuces, le rassurer, lui donner des analyses, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Tout ce que tu trouves à lui dire, c'est « t'es chez toi, vas-y ». Pennington, ses coachs, c'est un peu la même affaire. Entre le 2 puis le 3, entre le 3 puis le 4. « Come on, Rocky, là, laisse tes mains aller. Vas-y, laisse tes mains aller. » Ça veut dire quoi, sacrément, « laisse tes mains aller ». Feinte le jab. Pas une fois, ils ont dit « low kick ». Pas une fois, ils ont conseillé un low kick à Pennington. Mauvais corner work dans le... Puis là, je fais mon arena MMA un peu. Le mauvais corner work dans le coin de Pennington. Laisse tes mains aller. Ta gueule, si genre... dis que tu vois une ouverture, dis... mets de la pression, travaille derrière ton jab. Laisse tes mains aller, ça veut dire quoi, Big? Bref, fait que c'est ça. J'ai parlé quand même beaucoup de ce combat-là. Mais encore une fois, man, j'ai... pas détesté cette fight-là. C'était pas incroyable, mais c'était pour une ceinture. Puis je m'attendais à pire, disons ça ainsi. Puis là, bout de Saint-Cyboire, qu'est-ce qui s'est passé dans le combat principal, les chums? On refait le narratif. Alex Pereira, grand champion international de course. Quatrième combat, main event pour une ceinture en 11 mois. Superstar, la tête d'affiche de l'UFC. Le striker élite. Ça fait même pas 3 ans qu'il est dans l'UFC, puis il y a déjà genre 6, 4, 5 title fight defense. En tout cas, le gars, il arrête plus. Tac, 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 tac. Là, on lui donne Khalil Roundtree Jr. Tout le monde est comme, ben, ça devrait être Magomed Ankalaev, mais. Nous dérange pas vraiment que Magomed Ankalaev soit pas là, tu sais. Roundtree, gros kickboxer violent. Ça pouvait pas ne pas être bon. Mais là, comme je vous disais dans le breakdown, t'avais le narratif que Roundtree frappe fort, puis il y a une chance qu'il fasse mal à Pereira. Puis il y a du monde qui prenait Roundtree par KO, là, somehow. Puis là, moi, j'étais comme, les gars, laissez-vous pas flouer. Pereira va le tuer. Puis, Pereira l'a tué. Mais ça a été beaucoup plus dur qu'on le pensait. Puis là, effectivement, quatrième combat en 11 mois. On se souviendra, il avait l'orteil pété, mais lui, il n'a pas fait un McGregor. Il a dit « Je vais quand même aller me battre. » Il pogne des short notices. Il est fatigué. Il est 37 ans, si Pereira. À un moment donné, kickbox, là, ça fait mal en sacrament là, sur tes os, sur tes orteils, sur tes coudes, genoux, tête. Il était magané, Pereira. Puis on s'est dit « À un moment donné, il va l'échapper. » À un moment donné, ça ne marchera pas. Puis hier, est-ce qu'il n'a pas ses broches? Quel combat. Khalil Roundtree Jr. commence en force. Commence très bien. Explosif, rapide. Fait pas nécessairement de dommage au premier round, mais gagne le premier round. Lance plus de strikes, est plus rapide. Va de l'avant. Donc, Pereira, lui, qui est tranquille, bloque, s'il n'est pas stressé. Fait ses affaires, une coupe de kick. Mais, premier round, tu peux le donner à Roundtree. Personne qui est bien surpris, tout le monde est comme... Il pogne son range, là. Pereira, puis tu sais, Roundtree, c'est loin d'être un des meilleurs combattants au monde, mais hier, il était dans sa game en sacrament. Genre, je pense que tu pouvais difficilement demander mieux de Khalil Roundtree Jr. Mais là, deuxième round arrive. Ah oui, puis le combat commence. Pereira, il est allé d'un jumping front kick au visage à round 3. C'était pas chic, c'était bizarre. Round 3, t'as comme pogné. C'était weird. Il est comme sauté un peu comme. Il me semble que c'est Fabricio Werdum qui a commencé un combat de même à un moment donné contre Travis Brown, là, qui a comme sauté, mais Werdum, ça avait actually landé en pleine tronche. Là. Pereira qui a raté sa shot bien raide. Fait que là, t'es comme, oh, c'est weird un peu. Tu sais, comme, il était pas faux. Il y avait de quoi qui clochait un peu avec Pereira, mais bref, premier round. Deuxième arrive. Là, même chose. Round 3, super agressif, rapide. Précis, petit par contre. Fait qu'il y a de la misère à toucher la cible. Il manque tout le temps un demi-pied, un pied. Pereira, il fait juste tasser sa tête de même, puis il est capable d'éviter les attaques de Round 3. Mais en général, c'est Round 3 qui met de la pression, puis qui passe proche, tu sais, qui passe proche. Pereira commence à établir son low kick, la jambe avant en plus. Tellement slick, tellement quick, ce strike-là là, de Pereira, là. En droitier, sa jambe gauche, pac, il fait juste low kick ça, là. Puis là, tu sens que, ouf, ça commence à faire mal à la jambe droite de Round 3. Puis Round 3 commence à avoir à boiter un peu, puis tout. Mais, il continue de faire ses affaires, Round 3. Il continue de bien performer, puis à chaque fois, on est comme, hé, oh, 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 hé, oh! On est sur le bout de notre siège, puis c'est fou, c'est un bon combat. Puis là, Pereira s'emballe, lance un... J'ai l'impression que c'est un question mark kick là, qu'il a voulu lancer. Fait qu'il vise la tête de Round 3. Round 3 évite. Pereira tourne sur lui-même. Fait que là, il est de dos à Round 3. Puis Round 3 sac un crochet de la droite, bien timé pendant que Pereira il est de dos. Pac, il le clutch de même. Puis là, vous, les genoux de Pereira qui fléchissent. Le esti, on se souvient, là, on a tout en tête quand Adesanya, il l'a knocké, là, puis c'était comme voum! C'est particulier comment qui se fait toucher le Pereira, là, tu vois juste les genoux là, qui font voum! Qui tombent. Puis là, ça arrive là, on dit, et 5! C'est-tu là que ça se passe? Mais là, finalement, il récupère ses esprits. Round 3 essaie le finish, mais là, Round 3, comme je l'ai dit, sa jambe commence à être affectée, fait qu'il était un petit peu moins puissant. Puis Pereira réussit à finir le deuxième round sur ses pieds. Mais c'est peut-être 2-0 round 3, là. Troisième round arrive, là, on est comme, OK, c'est là que tu sens que le millage puis commence à être fatigué, là, le petit Pereira de tous ces combats-là, pas prendre de pause tout le temps en training camp. Troisième round arrive, là, OK, on commence à avoir du... tu sais, comme Bruno Silva, il avait donné beaucoup de... Il avait donné un bon fight à Pereira, mais c'était juste un 3 rounds. Puis c'était le Pereira nouveau, là, tu sais, dans l'UFC. Là, Round 3, là, Pereira smoke, il rit deux fois, puis smoke Jamal une fois en comme. Fait que ses trois derniers combats à Pereira, c'est genre. Il s'est débarrassé de son adversaire en à peine deux rounds, tu sais. Fait que là, deux rounds à l'avantage de son adversaire, il se fait drop au deuxième, on est comme, OK, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Mais là, troisième round arrive, puis là, il abuse encore plus avec le low kick, puis là, Round 3, tu sens qu'il est. Ça commence à y faire mal, là, sa jambe droite. Puis il y a de la misère à aller. Il est beaucoup moins explosif qu'il était dans les deux premiers rounds. Puis là, Alex là, il embarque son bicycle. Puis il va drop le low kick. Commence à travailler avec son jab et tout. Commence à maganer le visage de Round 3 au troisième. Troisième, clairement, à l'avantage du champion, Alex Pereira. Mais Round 3, il est là. Puis il réussit à y aller de kick blitz. Puis tout. Mais là, tu vois que Pereira, oh, il commence à reprendre le dessus. Mais là, c'est 2-1, Round 3. Quatrième round arrive. Spoiler alert, tuerie, boucherie du Brésilien, Poatan. Round 3 nous a montré qu'il était tough comme un steak à 2$, les chums, mais c'était pas assez. Il s'est fait fendre, il s'est fait ouvrir, il commence à pisser le sang de partout. Puis c'est Pereira land un énorme jab au début du quatrième, puis là, c'est là que tu as vu là, les ancêtres de Round 3 qui sont tournés dans leur tombe. Tabarnak, ils l'ont tous senti, celle-là. Puis là, le Pereira, c'était impressionnant de le voir de même. Tu sais, comme je disais, là, contre Jamal puis contre Yiri, il est tout le temps juste bien calme. Puis là, boup, il knock avec un crochet de la gauche. J'ai même pas l'impression qu'il a sué, là. Même contre Adesanya, c'était un peu ça. T'sais. Même si c'était un 5 rounds, c'est comme il est juste bien calme, puis à un moment donné, il tue. Tandis que dans ce combat-là, on l'a vu faire face à de l'adversité. Il s'est fait drop. Et il y a un gars plus rapide en face de lui, un gars presque aussi puissant que lui en face de lui. Fait que c'était impressionnant de voir Pereira avec beaucoup d'agressivité puis beaucoup de sentiments d'urgence puis aller de l'avant. Puis au quatrième, là, il sortait les strikes puis c'était magnifique, c'était dû. C'est absolument... C'est probablement... C'est pas le combat de l'année. C'est peut-être le combat de l'année, honnêtement. Fort top 3, d'après moi. Parce que, tu sais, on a Holloway contre Gaethje qui est genre le... l'emblème là, cette année, là, mais c'est surtout à cause du knockout. C'était un bon fight, mais Holloway a comme dominé. Là. Il a pété le nez à Gaethje à la fin du premier, puis c'était That's All She Wrote. T'sais. Ça, c'était incroyable, parce que Round 2 a vraiment pris le dessus, puis ça a switché de bord directos pour Pereira. Bref, quatrième round, c'est ça que tu veux. Genre, tu veux montrer à un de tes amis, genre, c'est quoi le MMA à son top, tu montres ce combat-là. Peut-être pas, là, mais c'est sûr que moi, gros fan de striking, c'était tellement fresh de voir pas une petite seconde de grappling. Là. Juste deux gars qui se tabassent d'en face avec du beau striking. Là. Puis c'est ça, au quatrième round, Pereira, il nous a montré que c'est le meilleur kickboxer sur la planète en ce moment en MMA. Il tapait Round 2 avec des combinaisons là, incroyables. Landé une coupe de kick et tout, là, ça à tronche de l'Américain. Puis là, Round 3 qui allait d'un petit blitz. Pereira réussit à évader. Puis là, Pereira, il rembarquait. Fait que ça a été de même là, pendant 2-3 minutes. Là, Round 3 qui tu vois là, sa barre d'énergie. Là. Puis Pereira qui est là. Puis animal, là, il fait juste te le découper. Puis le Round 3, il va d'un blitz. Pereira évite. Il recommence à te le découper. Puis à un moment donné, c'était trop là, la séquence de finish. Il restait 28 secondes à faire au quatrième round. Mark Goddard, là, il regardait l'action de près en sacrament. Là. J'ai l'impression qu'il aurait pu arrêter ça un petit peu plus tôt parce que Round 3, il a pu... L'affaire, c'est qu'à chaque fois que Pereira, il blitzait, Round 3, il reculait, il allait contre la cage, puis là, il lançait des gros hooks. Puis Goddard, c'est lui qui a arbitré les fights de Pereira puis d'Adesanya. Fait qu'il se souvient quand Adesanya, il a knocké Pereira. Adesanya, il était en danger contre la cage, puis c'est pendant que Pereira, il est là en train de vouloir te finir. Adesanya, il a landé un gros hook. Mais ça, c'était au deuxième round, si je me souviens bien. Puis Adesanya, il était loin d'être autant amoché que Round 3 l'était hier. Fait que je pense que Goddard aurait pu arrêter ça un petit peu plus tôt, mais il devait tout le temps se dire « Asti, Round 3 a quand même une chance de le toucher avec un crochet. » Mais à un moment donné, c'était fini. Puis la dernière séquence est complètement incroyable. Encore une fois, là, du 1-2-1-2 d'en face à Round 3. Ça en va au corps, là, Pereira, là. Tabasse 2-3 uppercuts au corps à Round 3, puis là, Round 3, puis là, il collapse, il tombe à terre, puis là, Goddard arrête le combat. Puis c'est fou, c'est ça que je dis aux boys, là, mais Pereira, il a quasiment Khalil Round 3, Khalil Round 3 hier. Parce qu'on se souviendra, le Round 3, il est du genre à kicker son adversaire d'un côte pendant qu'il est au sol, là. Puis je te garantis que Pereira, si Goddard n'arrêtait pas le combat, c'est là qu'il s'en allait, un esti genou au corps là, pendant que Round 3 était couché à terre. Goddard qui arrête le combat. Round 3, esti, énorme coupure en haut de l'œil ici, le nez qui pisse du sang. Pereira and still, là, c'est fantastique. On est genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, comme quand le feeling que t'as, là, des fois, là, esti, que c'est boring, là, mais on va se dire, là, ça peut être archi, archi plate, mais quand t'assistes à un spectacle comme celui-là, là, entre Pereira et Round 3, t'es genre, t'as un sentiment, là, t'es genre, gros, c'était quoi ça, man? C'était de la violence, c'était magnifique, c'était du striking pur, c'était tout ce que tu veux d'un combat de MMA. C'était absolument tout. C'était 100% ça. Mets ça dans une boîte, là, envoie ça en DVD à tous les hosties de combattants et combattantes de l'UFC, puis tu leur dis, c'est ça qu'on veut. C'est 100% ça qu'on veut à chaque fois que vous fucking battez. Pas esti de chum Mario Bautista qui lutte José Aldo puis qui te le pogne contre la cage puis qui fait absolument rien, tu sais. Pas Kyle Harrison qui met l'autre Brésil en terre puis qui bouge pas puis qui est comme... C'est ça. Pereira, Roundtree Jr., combat de l'année, les chums. Fucking insane. Pereira qui mentionne après sur le mic que Roundtree est tough en sacrament, mais qu'il est dû pour une pause, le chum Pereira, parce que Chris, ça fait 4 fois qu'il se bat en 11 mois. Il est pété de tout partout. Là. Il dit qu'il était ses antibiotiques puis qu'il s'est entraîné deux semaines et demie pour cette fight-là contre Roundtree. Il est comme là, j'en ai assez donné à l'UFC. Il a risqué beaucoup là, dans ce combat-là là, parce qu'il aurait pu l'échapper, celle-là, comme je disais. Fait qu'il est comme, les gars, prendre une pause, là, vous me reverrez dans 2 mois. Là, genre de pause que Pereira, il pogne ça. Il va arriver au mois de décembre. Je sauve la situation encore. Mais pour une fois, il était comme, m'a take it easy un petit peu, tu sais. Puis Roundtree, après ça, il va sur le mic, puis tout pété. Puis là, Rogan, il est genre, t'es un esti de malade, toi, Roundtree. Alors que Roundtree s'exprime, puis il est comme, ah, je suis bien content d'être là, j'ai profité du moment, puis tout pété. Il y a un esti de grosse flaque de sang qui lui sort du nez, puis là, tout le monde est genre, oh! Puis là, Roundtree, en bon jeune homme poli, il se met à. Il continue son entrevue avec Rogan, mais il met sa main devant sa bouche, tu sais. Pour pas que la caméra voit cette atrocité. Mais Rogan, il le voit, lui, sur le side. Puis là, Rogan est genre, enlève-moi ça, s'il te plaît. Fait que là, tu vois Roundtree, il est genre, plac! Puis là, gros, il s'est fait péter. Si vous avez pas vu les photos de Roundtree, là, après le combat, là, c'était de toute beauté. Un visage tumifié, comme seul l'UFC peut nous procurer. Puis, man, what a fight! What a fight! Puis même si la carte, c'était de la petite dompe jusqu'à là, ben, cette fight-là va nous avoir ravis, réjouis, puis on en veut plus, man. On en veut, c'est juste ça que je veux, là, des combats de l'UFC. C'est absolument juste ça que je veux. Du Pereira, Roundtree Jr., du Muay Thai de 4 onces dans ta face. Puis c'était insane. C'était fucking insane. And still, Alex Pereira. Wow, que dire de plus, les chums. J'ai grandement apprécié ce combat. La semaine prochaine, Brandon Royval contre Tatsuro Taira chez les 125 livres. Gros fight, potentiel title eliminator. Là, le gagnant pourrait aller pogner Alejandro Pantoja, surtout si c'est Taira qui gagne. Là. Royval, il a déjà perdu contre Pantoja, si je ne me trompe pas, ouais. Puis après ça, ça fait pas mal dur la carte. Là. Fait que... Mais UFC will UFC. Alex Poatan Pereira, c'était de toute beauté, les chums. Alors, on voit vos commentaires avant de se quitter. Que du GC ce soir. T'es là, mon GC, on est content. Il devrait s'appeler les Polygames de Salt Lake City. Excellent combat. Question mark kick. Ouais, ben comme tu vois, tu as fait un question mark après avoir écrit question mark kick. Puis c'est un peu ça, le question mark kick, c'est que tu y vas... C'est comme si tu faisais un low kick, donc un coup de pied au mollet, mais tu freines ton élan pour monter en head kick. Fait que ça fait comme ça. Hop! Ça fait ça, ça. Fait que la forme du coup de pied, c'est un peu comme un point d'interrogation, d'où le question mark kick. Merci à tous et à toutes. Vous avez été fantastiques, délicieux, partagés en grand nombre. Charlotte à Sammy Bunch, le kickboxer qui a réalisé le KO du week-end vendredi à New York, qui est venu en entrevue sur le show en début de show, justement. Vous irez voir ça si vous êtes arrivé en retard. Puis c'est ça, les chums. C'était mon résumé de l'UFC 307 Salt Lake City. 7.9 Yeti. Sur 10, puis je vous dis à la prochaine.